Merci Seigneur pour ta présence. C'est bon, je veux partager la parole de Dieu. Bon. Est-ce que vous savez qu'on est dans un hôtel? Ouais. Je vais mettre là parce que vous êtes tous mis là. Voilà. Et vous savez, il y a un évangile simpliste. Moi, quand je me suis converti, on disait toujours, au début de chaque réunion, on disait toujours, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Christ est au milieu d'eux. Vous connaissez ce verset? Et combien de fois Christ n'était pas là? On se parle en vérité. Il y avait franchement des réunions où nous, on était là. Enfin, peut-être même pas, en fait. Notre corps, en tout cas, était là. Mais Jésus n'était pas là. Et je crois que c'est important de comprendre que il y a des positions de foi, mais il y a aussi des positions qui nécessitent de la persévérance, et que tout n'est pas acquis dans le royaume de Dieu. Je disais à Fabien, lorsque je suis arrivé dans ce lieu, je prie depuis 4 heures ce matin et Dieu n'est pas là. Parce que quand Dieu est là, il est là. Comprenez, je ne parle pas de Dieu là, dans le sens omniprésent. Je parle de ces temps où tu sais que Dieu est là. Ces temps où la Bible dit, par exemple, que Moïse a enlevé les chaussures de ses pieds parce qu'il sait que Dieu est là. Ce n'est pas une idée ou un concept philosophique. C'est une réalité. Et parfois, ça prend du temps. Gérard a parlé du trésor. Vous savez, le trésor, c'est tiré d'une parabole que Jésus donne sur le royaume de Dieu. Et Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor qu'un homme a trouvé dans un champ. Imaginons qu'on ait un champ pas très grand, mais on va dire un champ moyen pour en tirer profit, ou en tout cas ça fait quelques mètres carrés. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas un jardinier un champ, c'est quand même assez vaste. Imaginez le temps qu'il a fallu pour l'homme pour trouver le trésor. À l'époque de Jésus, on ne parle pas d'un homme qui a un détecteur de métaux qui bip, on parle d'un homme qui doit trouver dans un champ où est le trésor. Et je pense que parfois, en tant que chrétien, on a du mal à comprendre justement cette réalité de Dieu qui est là, qui est présent avec nous, mais du trésor qu'on doit découvrir. Parce que Jésus, dans la parabole du trésor, ne parle pas de Dieu, il parle du royaume de Dieu. Tu peux être sauvé, tu peux être inscrit dans ton nom est inscrit dans le livre de vie, mais il y a une autre dimension dans la vie chrétienne, c'est de manifester le royaume de Dieu, de vivre le royaume de Dieu. Et on est dans un hôtel. On est dans un hôtel. Toute la semaine, il y a des gens qui vont et qui viennent. Dans cet hôtel, il y a des gens qui vivent dans le péché, il y a des gens qui sont possédés, il y a des gens qui sont des gens bien, mais qui vont juste en enfer, qu'importe. Mais toute la semaine, ce lieu porte un parfum qui n'est pas le parfum de Christ. Et de la même manière que nous, regardez franchement, des fois, nous, il nous faut du temps pour entrer dans la présence de Dieu. Pas parce que cette fois-ci, Dieu n'est pas là, c'est que nous, on a du mal à rentrer. On se sent pécheur, on ne se sent pas assez digne, on ne se sent pas juste concerné. Vous savez que la Bible dit que nous devons amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça, c'est un combat. S'il y a quelqu'un dans ce lieu qui me dit « Mais moi, c'est facile en une seconde », c'est que Paul te ment, ou alors que tu dois enseigner Paul, parce que Paul dit que nous devons apprendre à emmener nos pensées captives. Le mot captif est très fort. Ça veut dire que tes pensées ont tendance à faire ce qu'elles veulent plutôt que ce que Dieu veut. Et la vérité, c'est que Dieu peut être présent si tes pensées ne sont pas captives, tu ne le sais pas. Donc, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, je ne sais pas dans quelle dimension on ira, mais j'aimerais qu'on parle de cette réalité que nous devons apprendre à aller jusqu'à ce que Dieu se manifeste. On doit aller jusqu'à ce que les versets qu'on lit dans nos Bibles ne soient pas juste sur des pages, mais qu'ils deviennent une réalité dans nos vies. On peut déclarer tout ce qu'on veut. La vérité, c'est que notre vie parle. La Bible dit qu'on est un livre ouvert. Donc tu peux dire « je suis riche en Christ », si tu es pauvre, tu es pauvre. Tu peux dire « je suis victorieux en Christ », si tu es dans la défaite, tu es défaitiste en Christ. En fait, ce n'est pas ce qu'on dit qui est important. On n'est pas le peuple de la pensée positive, hein. C'est la manifestation de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit de son peuple, pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait un peuple qui porte son nom comme Israël, c'est que Dieu a dit que les autres peuples verront la différence de ce peuple-là avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils auront le nom de Dieu dans leur bouche, mais aussi parce que Dieu va leur tracer un chemin. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, il est dit ceci, on va lire dans quelques minutes, mais lorsqu'Israël est rentré dans le pays promis, les autres peuples avaient de la crainte. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vu comment Dieu avait sorti Israël au travers de son bras puissant, de la mainmise de l'Égypte. Ils avaient vu. Quand ils sont arrivés, on va lire dans quelques instants la ville de Haï, l'histoire de la ville de Haï. Mais Haï, il nous est dit qu'ils ont vu comment Dieu avait livré Jéricho. Donc, ce n'était pas conceptuel. C'était une réalité. Et en fait, nos vies doivent refléter une réalité. J'aimerais juste qu'on prie avant d'ouvrir la parole de Dieu. Je veux prier pour deux choses ce matin. Je veux prier pour les autres églises de cette ville, que Dieu les bénisse. Seigneur, tu bénis toutes les églises de la ville de Brignoles et de cette région du Centre-Var. Que ta main soit sur chaque peuple que tu as rassemblé, sur chaque famille chrétienne. Seigneur, nous ne sommes pas les meilleurs et nous voulons considérer que tu as déjà établi ton œuvre et nous les bénissons pour ça, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. J'aimerais aussi qu'on puisse lever les mains pendant juste un instant, on va prier pour Priscilla aussi. Seigneur Jésus, je prie pour Priscilla là où elle est, que tu puisses la bénir, que tu puisses lui faire du bien. Seigneur, que tu puisses la fortifier, fortifie son corps de la tête aux pieds maintenant même dans le nom de Jésus. Nous réclamons une percée pour sa vie, une percée dans sa santé, une percée aussi dans son moral, qu'elle puisse, Seigneur, sentir non seulement notre prière, mais qu'elle puisse sentir réellement l'action de Dieu dans son corps maintenant même. Père, maintenant même qu'il y ait un changement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu la bénisse là où elle est. On va lire ensemble plusieurs textes si vous êtes d'accord. Et le titre du message c'est « Apprends à combattre avec Dieu ». Je crois que nous devons apprendre à interagir avec Dieu. L'apôtre Paul dit que quand on se convertit, on est comme des enfants et on doit devenir des hommes. Et quelle est la différence entre un enfant et un homme ? C'est que un homme, quelqu'un qui devient mature, c'est qu'il comprend comment fonctionne le royaume de Dieu et comment Dieu fonctionne, parce que Dieu a un fonctionnement très spécifique, très particulier. C'est tellement spécifique que pour que tu comprennes son fonctionnement, Dieu t'a donné un livre. Encore celle-là, elle est petite. Mais moi, la mienne, elle est écrite en gros caractères. Elle fait, je ne sais pas, 2000 pages. Mais Dieu est compliqué. Hein. Il n'y a personne à côté de toi. Dieu est compliqué. Dieu est compliqué. On va passer l'éternité. Et à la fin de l'éternité, on n'aura toujours pas compris l'immensité de Dieu. Alors Dieu est compliqué. Alors on va lire ensemble, si vous voulez bien, deux textes. J'ai essayé de réduire, qu'on se rappelle bien là où on est dans ce texte-là. On est à la sortie de la première bataille de l'entrée dans le pays promis. Jéricho vient de s'effondrer. Et la Bible dit dans Josué chapitre 7 au verset 2, « Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. » Il leur dit « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 000 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ, car ils sont en petit nombre. » Amen. Je m'arrête là. Ça, c'est quand tu crois que l'évangile est simpliste. Je suis enfant de Dieu, j'ai la victoire. Calme-toi, assieds-toi. 3 000 hommes montèrent et se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Josué chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi, seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Dis avec moi, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Le butin et le bétail. Ça, c'est pour apprendre le, comment dire, l'orthophonie, le butin, le bétail. Tu garderas pour toi le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour montrer contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes. Verset 25. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes, femmes, tous les gens d'Haï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Haï et fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Amen. Amen. On a là la première bataille de la conquête. Parce que Jéricho, ce n'est pas vraiment une bataille. Jéricho, c'est ces moments où, vous savez, ces moments où ben, tu fais quoi ? La Bible dit, tu tournes 7 fois autour d'une ville en gardant le silence. Le 7e jour, tu cries, les murs s'effondrent. Qui c'est qui aime ce genre de bataille ?
C'est pas mal,
moi j'aime ces batailles-là. Quand Dieu me... Moi les batailles où Dieu me dit assieds-toi, je combats, ça c'est mes préférés. Maintenant je vais vous le dire d'entrée, des Jéricho, il n'y en a qu'une dans la Bible. Et nous, on en a tiré des séries d'enseignements, la louange qui abat les murailles. On va parler de ça. Mais la louange peut abattre les murailles. Quand Dieu te dit de le louer pour que les murailles s'effondrent. Mais si toi tu arrives avec ton évangile simpliste, qui consiste à avoir une série de règlements. Ah, Dieu abat les murailles par la louange. Et là, tu te mets à louer Dieu. Alors que Dieu te dit combat, ben, tu te prends une grande défaite et tu ne comprends pas. Et tu dis à Dieu, pourquoi ? Pourtant, je suis chrétien, j'ai fait selon ta parole. Oui, mais tu as fait selon la parole, mais pas selon la volonté de Dieu dans l'instant. Et la Bible dit ceci, par exemple, que le nom Haï, ça veut dire le tas de ruines. Je ne sais pas si vous réalisez, mais Dieu dit à son peuple, vous allez attaquer le tas de ruines. Vous allez attaquer Haï. Et la Bible dit, on l'a lu ensemble, on l'a terminé comme ça, au verset dans Josué 8 et au verset 25, on a terminé. Et Josué brûla Haï et en fit à jamais un tas de ruines. C'est étonnant ça, la ville s'appelle tas de ruines, mais elle n'en est pas un. Il faut que Josué combatte pour qu'elle devienne ce qui est déjà destiné qu'elle soit. Et en fait, dans les cieux, il y a plein de choses qui sont arrêtées. Il y a plein de choses qui, dans le royaume spirituel, sont déjà positionnées. Le nom dans la parole de Dieu, c'est la destinée. Le nom, c'est ce que tu seras, ce que tu feras. Mais dans ce cas-là, on voit clairement, dans le ciel, cette ville-là était déjà un tas de ruines. Mais pour que ce soit manifesté sur la terre, il fallait qu'il y ait un homme qui comprenne que Dieu voulait le faire et accomplisse la volonté de Dieu. Le problème qu'il y a, c'est que nous pouvons déclarer tout ce qu'on veut. Dieu attend qu'on manifeste. Par exemple, je pense à Élie. La Bible dit que Élie, lorsqu'il est venu après avoir tué tous les prophètes de Baal, va dire ceci. Il va dire à Achab, selle, monte ton cheval, va te réjouir car il se fait le bruit de la pluie. Et pourtant, il ne pleut pas. Mais il faut qu'il monte sur la montagne, qu'il intercède 7 fois et au bout de la 7e fois, la pluie tombe. C'est étonnant. Il y avait déjà dans le monde spirituel le bruit de la pluie, mais la pluie attendait qu'un homme prie. Il y avait déjà une ville qui était un tas de cendres, un tas de ruines, mais le monde spirituel, le royaume de Dieu, attendait un peuple qui comprenne qu'il fallait monter au combat. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Ça signifie qu'il y a déjà plein de choses qui sont arrêtées dans le royaume de Dieu. Il y a déjà plein de choses qui portent des noms de victoire, des noms de percée, des noms de ministère, des noms de clés qui sont à ta disposition pour ouvrir des portes qui sont fermées sur la terre. Mais ces clés, ces percées, ces victoires nécessitent une femme, un homme qui se tient devant Dieu, qui dit « Seigneur, quelle est la stratégie ? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» et qui les manifeste sur la terre. La Bible dit « Quand tu pries, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle l'est au ciel. » Au ciel, la volonté de Dieu est arrêtée. Le problème, ce n'est pas ce qui est arrêté au ciel, c'est la manifestation sur la terre. Et qui est celui qui est choisi pour manifester le royaume de Dieu sur la terre ? C'est l'Église. C'est nous l'Église. Dis à la personne à côté de toi, c'est toi l'Église. C'est toi l'Église. Tu peux avoir un grand ministère au ciel. Le problème est là, frères et sœurs, c'est que des fois, on prie et Dieu nous parle. Seigneur, quelle est ta volonté ? Et là, le Seigneur commence à me parler. Il me parle pour ma famille de victoire. Il me parle de provision financière. Il va me parler d'un ministère. Mais le problème, c'est que nous attendons de manière passive que ces choses arrivent. Si tu attends de manière passive ce qui est arrêté au ciel, ça va rester au ciel. C'est ça le problème. Ou alors, on se trompe de stratégie, comme j'ai dit là. On va se mettre à adorer dans un moment où Dieu nous attend sur le front en train de combattre. J'aime les victoires où on adore. Je préfère juste adorer, faire le tour de la ville, moi. Les amis, si j'ai le choix entre un combat, et là en plus la Bible dit que ce n'était même pas des vaillants hommes à Haï, c'était une petite ville. Mais même un petit nombre te met en défaite quand tu ne combats pas selon les principes de Dieu. Parce que dans le royaume spirituel, même si tu es un enfant de Dieu, si tu fais n'importe quoi, tu pars en ayant la queue entre les jambes. Donc dans le monde spirituel, c'était déjà un tas de ruines, mais il fallait un peuple qui manifeste. Et ce que j'aimerais partager avec vous de manière très claire ce matin, c'est que Dieu ne fonctionne pas toujours de la même manière. C'est juste ça qu'on va partager ce matin. Dieu ne fonctionne pas toujours de la même manière. Et c'est ça qui nous pose problème. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est les principes établis. Les murailles s'écroulent par la louange. D'accord. Ok. Et on en a plusieurs comme ça. L'offrande qui te donne la victoire sur ton ennemi. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? En tout cas, le jeûne. Ah, ça c'est bon ça. Le jeûne qui te donne une percée. Combien de fois tu as jeûné, il ne s'est rien passé ? Est-ce que vous savez que Jésus a quand même dit qu'à un moment donné, lorsque les pharisiens regardent les disciples manger avec lui, Jésus dit, est-ce qu'on jeûne quand l'époux est là ? Ben non. Et lorsque les disciples reviennent dans Luc au chapitre 11 en disant tous les démons étaient soumis sauf le démon qui jetait l'enfant dans le feu et l'eau, Jésus dit ce sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ben, Seigneur, tu nous as dit que ce n'était pas le temps du jeûne. Et là, lui, je ne comprends pas. Oui, parce que si tu crois que tu peux te fier sur ce que Dieu t'a dit hier pour savoir ce qu'il veut aujourd'hui, tu te trompes. C'est pour ça qu'un croyant, un chrétien ne peut jamais s'arrêter dans le passé. Le passé, c'est fini. Le passé, c'est la mort. Dieu évolue dans un présent continu. Il n'est pas le Dieu d'hier, il est « je suis ». C'est pour ça que la parole essaie de nous faire comprendre. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mais la parole qui le synthétise le plus, c'est « il est « je suis ». Il est « je suis aujourd'hui ». Donc s'il est « je suis aujourd'hui », tu dois savoir ce qu'aujourd'hui te réserve en Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui ? Et on voit par exemple dans le texte qu'on a lu que dès le début de la conquête, Dieu est en train d'apprendre à Israël comment il fonctionne. Et en deux batailles, ils vivent deux choses opposées. La première, ne fait rien, tourne autour d'une ville, crie, et les murs s'effondrent. Et la deuxième, c'est combat, et je combattrai avec toi. Donc dans un cas, c'est Dieu qui combat pour toi. Et dans un cas, je ne combats pas, mais si tu vas au combat, je viens avec toi. Donc déjà, deux manières de fonctionner différemment, deux guerres, mais qui sont littéralement opposées. Je pense à Jésus, par exemple, qui va guérir Bartimée. Bartimée, la Bible dit que lorsqu'il est arrivé vers lui, Jésus, voyant sa foi, lui dit, « Ta foi t'a sauvé, et il recouvra la vue. » Donc il y a des moments donnés où tu peux retrouver la vue juste par la foi. Et puis à un autre moment, c'est le pasteur Joël en a parlé, je crois que c'est dans Jean peut-être 9, quelque chose comme ça. En tout cas, vous savez, cet aveugle pour lequel Jésus va cracher par terre, faire de la boue et lui mettre dans les yeux. Eh bien, il faut cette espèce de rituel bizarre pour que cet homme reçoive la boue dans les yeux. Jésus lui dit, maintenant, va te laver au réservoir de Siloé. Il va se laver et là, il recouvre la vue. Donc, comment est-ce que Dieu guérit les aveugles ? Ben, certains vont dire par la foi, d'autres vont dire il faut faire de la boue en crachant par terre. Si tu as à choisir, toi. Mais en fait, frères et sœurs, vous savez quoi ? Vous découvrirez que votre théologie souvent ressemble au chemin le plus facile. Parce qu'on a tendance à garder pour nous les principes les plus simples. Sauf qu'à un moment donné, on ne doit pas rester des enfants. Et je crois, on parle On est en train de préparer une implantation d'église ici à Brignoles. L'idée n'est pas d'avoir un bâtiment, de faire de la louange, de faire un message, de rentrer chez nous pour qu'il y ait un lieu de culte de plus. Ça, il y en a assez dans la ville. Ce qu'on veut, nous, c'est que Dieu soit au milieu de nous. Et si on veut que Dieu soit au milieu de nous, il faut qu'on fasse les choses à sa manière. S'il y a des aveugles qui doivent retrouver la vue, la première question, c'est: Seigneur, c'est quoi la méthode du moment? C'est quoi? De quoi il a besoin? Parce que si tu vas voir l'homme pour qui le réservoir de Siloé est destiné, que tu lui dis « retrouve la vue par la foi », eh bien il reste aveugle. Et si tu vas voir Bartimée et que tu lui craches au visage, non seulement il reste aveugle, mais en plus il t'en veut. Est-ce que vous captez ça? Et Dieu est toujours... Et en fait, quand tu regardes dans la parole de Dieu, il y a des principes, mais il n'y a pas de méthode. Nous, on aime quand c'est linéaire, mais Dieu n'est pas linéaire. À chaque fois que tu veux affronter le combat d'aujourd'hui ou de demain, à partir de ce que Dieu t'a enseigné simplement hier, tu es en grand, grand, grand danger. Parce que l'expérience est là pour nous apprendre le cœur de Dieu, le caractère de Dieu. Mais l'expérience, ce n'est pas, comment dire, un livre de méthode pour juste dire A plus B égale C. Donc si se passe ça, je fais ça, j'aurai ça. C'est faux. Est-ce que tu sais que parfois, lorsque tu es dans la disette, c'est en faisant une offrande que ton ciel s'ouvre? Oui. Parfois, lorsque tu es dans ta disette et que tu fais une offrande que Dieu ne t'a pas demandé, tu t'appauvris. Donc, ce n'est pas des méthodes. Il faut être calqué au cœur de Dieu. Mais surtout comprendre que parfois, le chemin que Dieu va privilégier, c'est le plus dur. Enfin, je me rectifie. Le chemin que tu crois que Dieu va privilégier est le plus dur. Parce que quand tu rentres dedans, en fait, tu te rends compte que Dieu est avec toi dans le chemin. Mais dans ce texte-là, en tout cas dans ce qu'on a vu, on voit d'entrée deux combats. Une direction ne combat pas, une direction tu combats. Les aveugles, c'est pareil. Je crache par terre pour que tu retrouves la vue par la foi. Et on voit à plein d'endroits ça dans la parole de Dieu. Nous aimons la linéarité, j'ai mis ça dans mes notes. Nous aimons la linéarité, mais Dieu aime les détours. Il est dit ceci: lorsque le peuple de Dieu sort d'Égypte, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin côtier, quoique le plus court, parce qu'il savait qu'il y avait des adversaires qui pouvaient venir les faire fuir. Il leur fit prendre le chemin du désert. Le désert n'a pas été une sanction de Dieu. Le désert, ce n'est pas le péché d'Israël qui les a conduits au désert. Ce qui a conduit Israël à rester au désert, c'est leur péché. Mais le désert, c'est pas leur péché qui les a conduits au désert. Si c'est ton péché qui t'a conduit au désert, repens-toi, parce que le désert dans lequel tu es, c'est pas Dieu qui l'a voulu pour toi. Là, dans ce texte, il est dit que c'est Dieu qui leur fit prendre le chemin du désert, parce qu'il voulait les préserver. Mais si j'ai le choix, je préfère le chemin côtier, moi. Vous préférez quoi, vous? Aller au pays promis, par la plage, les cocotiers, la limonade, ou le désert brûlant, les pierres et les animaux sauvages? En fait, si tu me dis, moi je préfère le désert, là c'est un autre problème, parlons ensemble après le culte, ou mets-toi ici, on va tous prier pour toi. Mais c'est sûr, en fait, si j'évalue les directions de Dieu en fonction de mon corps, c'est-à-dire en fonction de mon homme charnel, je vais me tromper. Éventuellement, je vais toucher la cible. Dieu me disait il y a quelques jours, si tu es de temps en temps dans l'esprit, tu as de temps en temps des victoires. Si tu es de temps en temps dans l'esprit, tu as de temps en temps des victoires. Même Saül, à un moment donné, il a été dans l'esprit accidentellement. On peut être dans l'esprit. Et là, on va se dire, je suis un prophète. Non, tu as été accidentellement dans l'esprit. Donc, il est fondamental de comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu, nous aimons les méthodes, mais Dieu aime la lumière du moment. Dieu aime le moment. La Bible parle, lorsque vous lisez, surtout la Bible dans les langues originales, mais dans l'Ancien Testament, il y a le mot Shekinah qui signifie la gloire de Dieu et est très très connecté au moment. Et dans le Nouveau Testament, il y a deux mots qui sont encore, c'est-à-dire qui éclairent encore plus la manière dont Dieu fonctionne. C'est le mot Kairos, c'est-à-dire que le moment de Dieu, c'est le Kairos, c'est un instant. C'est-à-dire qu'au moment de Dieu, lorsque tu as la foi, au moment de Dieu, lorsque tu fais ce que Dieu te demande, au moment de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui est libérée. Dans le Nouveau Testament, il y a la notion de réma. La notion de réma, c'est connecté au moment. Le réma, c'est quoi? C'est tu connais la parole de Dieu, mais à un moment donné, la parole de Dieu devient la parole pour toi. C'est le réma. Donc Dieu est le Dieu du moment. Nous aimons la raison, mais Dieu aime l'esprit. Je ne dis pas que votre tête ne sert à rien. L'intelligence est importante. Par exemple, c'est parce que je suis intelligent que je me suis habillé pour venir. Je ne suis pas resté en pyjama. Ça, c'est mon intelligence. Je n'ai pas prié beaucoup pour ça. Mais l'intelligence, si elle me permet de vivre sur la terre, elle ne me permet pas de faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas les opposer. Il faut savoir juste à quelle place on la met. Quand tu crois que Dieu est linéaire, tu louperas toujours le mouvement de Dieu. Connaître les directives n'est pas, c'est très important ce que je vais vous dire, connaître les directives n'est pas suffisant. Il faut connaître les directives, mais il faut surtout connaître le bon moment. Connaître les directives, c'est bien, mais c'est quoi la directive du moment? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Au plus tu vis dans le passé, au plus ta vie se remplit de défaites. Parce que tu ne peux plus avoir accès à la victoire. Parce que la Bible le dit à plein d'endroits, Dieu est un Dieu qui est jaloux. Dieu aime avoir la gloire. Mais si toi tu crois que c'est par ton intelligence, et tu vas à la fin de ta Bible, il y a la concordance biblique, tu tapes combat, hop, hop, ça te donne 2-3 versets, c'est bon, j'ai la clé. Mais c'est plus facile ça que d'aller dans le jeûne et la prière pendant 3 semaines chercher le cœur de Dieu. Il est dit ceci dans Josué qu'on a lu ensemble. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays. Et ces hommes montèrent, ils explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes suffiront. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Waouh! La victoire de Jéricho avait été tellement facile qu'ils ont cru que la vie chrétienne c'était facile. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier et d'avoir une réponse rapide de la part de Dieu? Ça vous est déjà arrivé, j'espère. Ben oui. Le problème des réponses rapides, c'est qu'elles nous font croire que demain la réponse sera rapide. La Bible dit, et ça c'est vraiment spécial, que l'orgueil précède la chute. Tu sais, il est plus simple, en tout cas, il est plus facile de s'enorgueillir d'une victoire que d'une défaite. Non ? Plus tu gagnes, plus tu crois que tu gagneras. Mais la Bible dit que dans le monde spirituel, le principe est que l'orgueil cache la chute. Et c'est souvent ça la clé. C'est que nos victoires d'hier nous poussent à croire que Dieu sera d'une manière pour toujours. Et du coup, on s'engage dans un chemin avec orgueil. L'orgueil, c'est lorsque je ne consulte plus Dieu. L'orgueil, c'est quand je crois que je sais. L'orgueil, c'est quand je crois que ma vie m'appartient. C'est que je crois que je suis le roi du royaume, en fait. La victoire de Jéricho avait été facile. Si tu n'entends pas Dieu maintenant, tu combattras avec des souvenirs. Et quand je combats avec des souvenirs, je me prépare à vivre de grandes défaites. Je vous dis tout ça ce matin parce que je crois vraiment, vraiment, vraiment de la part de Dieu que nous sommes, en tout cas pour nous, ici. Et ce message-là, je ne l'ai pas partagé à Toulon, je crois vraiment que c'est pour nous ici, pour Brignoles, pour ce qu'on est en train de faire, pour les familles qu'on représente aussi, pour l'appel de Dieu qui est sur la vie de tous ceux qui sont présents ici. C'est que nous devons comprendre qu'il y a le besoin urgent d'entendre Dieu maintenant. Si nous voulons voir les tas de ruines que Dieu a préparées pour abattre les murailles que l'ennemi a bâties, nous devons entendre Dieu aujourd'hui pour savoir quoi faire. Je vais vous dire une chose peut-être un peu violente, je l'ai écrit comme ça, je me suis dit, est-ce que c'est trop violent, Seigneur? Est-ce que je dois changer mes notes? Ben, je crois pas, je vais le dire tel que je l'ai écrit. Le maintenant est un problème pour ceux qui cherchent la victoire sans l'intimité. Je répète, Le maintenant est un problème pour ceux qui cherchent la victoire sans l'intimité, pour ceux qui cherchent le fruit sans la relation. Si tu veux avoir le fruit sans la relation, si tu veux avoir le fruit sans l'intimité, on appelle ça, et là je suis désolé pour vos oreilles, la prostitution. Le problème est là, c'est que Dieu est un Dieu de relation. Toutes les victoires que Dieu nous donne, il veut qu'elles aient pris racine, qu'elles se soient créées dans l'intimité. La voix de Dieu est le fruit de l'intimité. Si je pose la question à tout le monde, je dis, qui veut entendre Dieu? Tout le monde va me dire, moi. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui entendent Dieu et il y en a qui ne l'entendent pas? Alors oui, je sais qu'il y a des temps de silence de Dieu qui existent dans la parole et que le silence de Dieu, c'est aussi la voix de Dieu. Mais ta vie ne peut pas être que silence. Vous savez, Jésus parlait peu. Hein. On a un gros condensé de toutes les paroles de Christ dans les évangiles, mais on a 3 ans et demi qui nous sont rapportés. Jésus ne parlait pas beaucoup. D'ailleurs, ça déconcertait les disciples parce que des fois, il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ah, bon. Et là, du coup, Jésus dit plus rien, réfléchit, etc. Et au bout d'un moment, Jésus leur dit « Bon, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'avez-vous ?» Mais c'est des phrases très courtes. Alors, c'est vrai que Dieu ne parle pas pour rien, mais Dieu parle quand même. Et parfois, le silence de Dieu est connecté au fait qu'on veut juste avoir sa voix. Mais la voix est cachée dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle nécessite une relation. Et dans ce texte-là qu'on a lu ensemble, le problème, c'était quoi? C'est que Josué, et comprenez une chose, Josué, c'est un homme de Dieu. Josué, la Bible dit qu'il prend la suite de Moïse, que pendant toute une saison, il était dans le tabernacle avec Moïse quand il allait, et que quand Moïse sortait, lui, il restait dans le tabernacle. Josué, c'est un homme de la présence de Dieu, c'est un homme de l'intimité. Mais dans ce texte-là, si vous avez... j'ai pas lu la totalité du texte parce qu'il y a aussi toute la dimension d'Acan dans ce texte-là. Mais c'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que Josué, malgré qu'il soit un homme de Dieu, après la victoire qu'il a acquise à Jéricho, il va partir à la guerre sans consulter Dieu. Et ça, c'est très flagrant dans ce texte-là. J'ai eu la victoire une fois, Dieu est avec moi, il sera avec moi tout le temps. Mais non, là il est parti au combat sans consulter Dieu. La victoire avait été facile. En plus, vous avez lu le rapport des gens qu'il va envoyer. Leur dit, les gens disent, mais pourquoi envoyer du monde? Il y a peu de soldats dans cette ville. C'est une ville faible. Alors Jéricho et Haï nous livrent quelques principes comme ça. C'est que, par exemple, Jéricho nous apprend que l'adoration te positionne dans le pays promis. Tu rentres dans le pays promis au travers de l'adoration. Jéricho nous enseigne par exemple que la guerre va nous donner par contre, Haï nous enseigne que la guerre nous donne le pays qui est dominé par l'ennemi. Jéricho nous enseigne que la foi nous donne ce qu'on a déjà. La Bible dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi te donne ce que tu as déjà. Les murailles de Jéricho sont tombées juste en écoutant Dieu, juste par une démarche de foi. Ils sont rentrés dans le pays promis parce qu'ils ont cru que Dieu leur donnait un pays promis. Donc la foi te permet d'entrer, mais la guerre te donne ce que l'ennemi possède. Et si tu es juste dans la foi, tu vas juste entrer. Et le problème est que entrer c'est bien, mais posséder c'est mieux. Si par exemple, quelqu'un vient te voir et te dit « j'ai une maison pour toi » et que toi tu entres et tu restes dans l'entrebâillement de la porte et que tu te réjouis, ben c'est pas satisfaisant. Parce que ce qui est important, c'est de prendre possession des lieux. La porte, elle est importante parce que si tu n'entres pas, ben tu restes à l'extérieur. Mais si tu ne prends pas possession, tu ne peux pas jouir pleinement. Et là, on voit pleinement la différence entre la promesse et la conquête. La promesse s'obtient par la foi. Le diable va beaucoup attaquer ta foi considérant les promesses de Dieu. Par exemple, Dieu te promet une guérison, Dieu te promet une victoire, Dieu te promet un ministère, qu'importe. Mais la foi, c'est ce qui va maintenir en vie cette parole que tu as reçue en toi. Si tu arrêtes de croire, la parole de Dieu perd sa puissance. Il est dit ceci dans Hébreux. La différence entre eux et nous, c'est que cette parole ne trouva pas d'écho en eux, bien qu'ils l'eurent entendue. Donc, la parole de Dieu est puissante par la foi. Donc on voit bien ça. La foi me permet d'entrer dans la promesse. Mais la guerre me donne ce que l'ennemi possède. La guerre me permet d'entrer dans la conquête. Et je crois que là, il y a une clé profonde pour beaucoup d'entre nous, pour moi, pour nous. C'est que nous devons apprendre à conquérir. On ne peut pas juste danser sur le champ de bataille. Cette nuit, le week-end, enfin avant-hier, j'étais avec des frères et sœurs, on a fait une soirée de prière. On a prié de 22h jusqu'à 7h du matin. J'étais là pendant la soirée, puis à un moment donné, il y avait des moments où j'étais fatigué. Hein. Mais vous savez, je ne crois pas à la performance spirituelle. Mais je crois que si ta vie chrétienne est toujours facile, tu auras peu de victoires dans ta vie. Je crois qu'il y a des moments où nous devons attendre Dieu jusqu'à ce que. Je crois que le Saint-Esprit, s'ils étaient restés juste une heure, eh bien ne serait pas venu. Il est venu au bout de 10 jours enfermé dans une chambre. Il y a cette dimension-là d'attendre, d'être dans l'attente de la parole. Qu'est-ce que Dieu va dire ? Qu'est-ce que Dieu va me partager ? Et il y a des conquêtes qui sont là, disponibles, mais on doit rentrer par le combat, par la persévérance, par la guerre. Jéricho me dit, tu as des victoires par la louange, mais Haï te dit, il y a des victoires par la violence. Le problème est celui-ci, ce qu'il est dit dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Il n'est pas écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est ouvert à la louange. Mais je sors de nous un peu. Et je vois un peu, je regarde mon expérience de vie chrétienne. Mais ce principe est fondamental parce que quand tu regardes comment l'Église évolue dans cette saison dans laquelle on est, par exemple, si on a une matinée ou une soirée de louange, le monde est là. Si on a une soirée d'intercession, il n'y a pas un chat. Et l'Église est au reflet. La victoire est au reflet de la persévérance, du combat qu'on y mène. Maintenant, il y a une grande différence entre les victoires que tu obtiens quand Dieu combat et les victoires que tu obtiens quand tu combats et que Dieu combat avec toi. On va le voir ici pendant quelques instants. Et je termine par ça. Dieu avait dit à Jéricho, il a donné cette instruction à Josué. Vous allez faire 7 fois le tour de la ville, 6 fois, au 7e jour, vous ferez le tour de la ville, vous crierez, les murailles vont s'effondrer. Et il a dit, tout ce que vous allez trouver à Jéricho, tout, va m'être consacré. Vous allez tout dévouer par interdit et tout brûler. Ce sera pour l'Éternel. À Haï, Dieu va dire à Josué, on l'a lu ensemble, tout le butin, toutes les bêtes seront pour vous. Et que si vous connaissez l'histoire, je ne l'ai pas lu, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais la première défaite lorsqu'ils sont allés combattre Haï, elle a 2 raisons principales, c'est que Josué n'a pas prié. Tu ne pries pas, tu n'as pas de victoire. Et la deuxième, c'est que Akan avait récupéré 2-3 petites bricoles de Jéricho et il les avait cachées dans sa tente. Et Dieu dit ceci, quand je combats et que toi tu restes assis, tout est pour moi. C'est normal, le butin est pour celui qui combat, non ? Quand je combats et que tu restes assis, le butin est pour moi. Mais quand tu combats et que je combats avec toi, le butin est pour toi. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence ? Ben, il y a une grande différence, grande différence. Tu peux être dans le pays promis et être un pauvre au pays promis. Tu peux être au pays promis et avoir une vie misérable. Et là, dans l'histoire d'Haï, c'est que Dieu veut enseigner des principes. Il y a des principes de royauté, il y a des principes de règne qui sont connectés soit au fait d'attendre Dieu qui combat pour nous et qui nous donne une victoire, soit au fait que j'entends Dieu qui me dit « Monte, va, combat, et je serai avec toi. » Et là, il y aura d'autres niveaux de règne qui me seront offerts. La Bible dit ceci, lorsque Jésus nous enseigne sur la prière, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, il y a des dimensions du règne qui doivent s'arracher du ciel par la violence spirituelle. Que ton règne vienne. Ça veut dire qu'il y a une femme, qu'il y a un homme qui a vu quelque chose dans le ciel, qui a vu une dimension du règne et qui veut le voir sur la terre. Que ton règne vienne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'attrape et qui le fasse descendre, ça. C'est pas Dieu qui dit « mon règne vient ». Il dit « quand tu pries, toi, tu pries que mon règne vienne ». Donc il y a une dimension qui est connectée. Et faut comprendre, le royaume des cieux est ouvert par Christ. Si tu as Christ dans ta vie, tu as accès au royaume. Mais le royaume se manifeste sur la terre par quelqu'un qui a compris qu'il faut l'amener sur la terre. Et je prie, et c'est un cri, et c'est un appel pour nous aujourd'hui. Devenons un peu plus grands. Dis à la personne à côté de toi, et si on grandissait un peu ? Est-ce qu'on peut être un peu plus grand ? Est-ce qu'on peut commencer à aller chercher ? Si Dieu fait de toi un héros, si Dieu travaille ta musculature spirituelle, si Dieu te donne une onction, si Dieu te donne une force spirituelle, ce n'est pas que pour te préparer à aller au ciel. C'est pour te préparer à rentrer en conflit avec l'ennemi. Le lion et l'ours n'étaient pas là pour embêter David, ils étaient là pour préparer David à affronter un adversaire supérieur. Il devait affronter Goliath. Dieu nous prépare. Jésus dit dans Luc chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour chasser, redonner aux captifs la délivrance, pour. » La Bible dit dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre, « Le Fils est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Donc si tu prends tous ces versets, tout ce que la parole enseigne, tu comprends que tout ce que Dieu te donne a une destinée. Tout ce que Dieu te donne, les dons spirituels. Frères et sœurs, vous voulez grandir dans les dons spirituels ? Alors, ayez une cible. Le problème, c'est que souvent, on veut que Dieu nous utilise pour qu'après, on soit content d'avoir été utilisé. Et là, tu rentres chez toi, tu as ton mari, tu dis hey, don de guérison, alléluia. Mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour détruire les œuvres du diable, pour briser une noirceur, pour briser un adversaire. Le royaume des cieux est forcé. Alors la question est, comment est-ce que Dieu combat ? Eh bien, Dieu va combattre pour toi, pour garantir sa promesse. Vous savez, Dieu te donne une promesse et il va veiller à sa parole. Ce que la Bible enseigne, ce que je vous dis, on peut prendre plein de versets. Dieu combat parce qu'il veille à sa parole. Donc lorsqu'il te donne une promesse, Dieu avait dit à son peuple d'Israël, il avait dit à Abraham en fait, « J'ai pour toi un pays où coule le lait et le miel. » Et parce que Dieu veille sur sa promesse, lorsqu'elle a été mise en danger, à chaque fois il est intervenu. Quand Abraham est parti en Égypte, il a donné Sarah, sa femme, à Pharaon, il est intervenu en maudissant Pharaon parce qu'il maintient la promesse en vie. Et à chaque étape, on voit que Dieu protège. Lorsque... il y a l'histoire avec Ismaël, avec Agar, Dieu protège encore. Et ça, on voit dans l'histoire des patriarches, Dieu qui protège sa parole. Ce n'est même pas les hommes qui font quelque chose, c'est Dieu qui le fait. C'est pour ça, ne sois pas inquiet pour les promesses de Dieu dans ta vie. Si Dieu te l'a donné, il te l'a donné. Il n'y a que dans le royaume des hommes où on peut donner et reprendre. Dans le royaume de Dieu, Dieu ne donne pas pour reprendre. La Bible dit dans Romains chapitre 8, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Ça, c'est une évidence, c'est clair, c'est établi, c'est calé. Dieu travaille pour sa promesse. Parce que si sa promesse devait être, si elle était dilapidée, il pourrait passer lui-même pour un menteur. Donc Dieu combat pour sa promesse, pour garder sa promesse en vie. Maintenant, comment se fait-il qu'il y ait des promesses qui ne soient jamais réalisées? Puisque Dieu combat pour sa promesse. Dieu maintient la porte ouverte tout le temps. Je l'ai dit tout à l'heure. Jéricho, c'est la porte du pays promis. Tu as le choix. Tu peux faire ton camp à Jéricho. Tu as attendu 400 ans en Égypte, 40 ans dans le désert. Tu rentres dans le pays promis. Tu vois la victoire à Jéricho, victoire facile. Tu peux t'établir là et croire que c'est ça. Dieu a combattu pour son peuple parce qu'il voulait leur montrer que c'était sa promesse qu'ils étaient appelés à entrer. Mais une fois que la promesse est en vie, qu'elle t'est donnée, à un moment donné, que tu le veuilles ou pas, content ou pas, d'accord ou pas, il y a un acte qui doit être posé. C'est l'acte qui va donner la vie à la promesse. Dieu avait dit à Abraham que Sarah allait être enceinte. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que Sarah et Abraham ont dû coucher ensemble pour qu'il y ait un enfant. Eh oui, à part Jésus qui est le seul qui est né de l'Esprit. Et encore, quand vous lisez l'histoire de Marie, il est question d'une femme qui s'est tenue pure devant Dieu. Pas, Dieu n'est pas juste venu trouver quelqu'un au hasard pour dire « Oh, papa, on va... » Donc, il y a une promesse, mais il y a aussi la matérialisation de la promesse. Et la matérialisation de la promesse, elle va passer par un combat et elle va passer par un butin. Le butin, c'est ce que l'ennemi possède. Jésus, lorsqu'il fait face à Satan dans Luc, au chapitre 4, il est dit ceci, alors que le diable lui fait face. À un moment donné, le diable lui dit « Si tu m'adores, je vais te donner le pouvoir sur tous les royaumes. » Donc on voit que le diable a le pouvoir de tous les royaumes. Mais si le diable a le pouvoir de tous les royaumes, lorsque le diable est dépouillé, ça veut dire que tu reprends le pouvoir sur les royaumes. Le Fils est venu, il a dépouillé les puissances, les autorités, les dominations. Mais à un moment donné, tu sais tous ces versets, tu les connais, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un homme qui manifeste. Il faut qu'il y ait un Marc 16. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Oui, mais attention, tu viens de dire que le Fils a dépouillé les puissances, les autorités, les dominations. Oui, il l'a fait. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un croyant qui vienne et qui dise au nom de Jésus et qui chasse un démon. Parce que celui qui règne sur cette terre, le prince de la puissance de l'air, c'est pas Christ, hein. C'est l'ennemi. Maintenant, comprends, je connecte tout ça à ce que je disais là et je termine par ça. Si tu ne comprends pas ça, tu vis dans un monde dominé par l'adversaire. Des luttes, des combats toute la journée. Toute la journée. Même les journées qui te semblent faciles, elles ne sont pas faciles. Il n'y a pas une journée facile sur cette terre. Il y a juste des jours où on est plus conscient que d'autres que c'est dur. Ou des fois, ce n'est pas nous qui prenons les coups, c'est les gens autour de nous. Mais des jours faciles, il n'y en a pas. Même le corps se détruit. C'est la parole qu'il en sait. Le corps se détruit. Donc il y a toutes sortes de combats tout le temps. Et si tu arrives toi juste avec ta promesse, tu vas subir tout le temps. Mais à un moment donné, si tu comprends, tu connectes ce qu'on est en train de partager, tu comprends que dans chaque attaque et chaque combat, il y a des clés que Dieu te donne qui sont inscrites au ciel, inscrites dans sa parole. Parce que ce que je dis ce matin, c'est pas que c'est des choses nouvelles. C'est inscrit dans sa parole. Mais tu dois savoir lequel utiliser. Si je te donne un marteau, un tournevis, une scie, plein d'outils, c'est bien de les avoir, mais lequel utiliser? Et c'est là où le maintenant est important, parce que c'est le maintenant qui te dit quoi faire. Maintenant. Et quand tu captes le maintenant, tu captes le principe, ça te permet de partir à la guerre. Et dans ce texte-là, on voit que Dieu dit à Josué, tu vas combattre. C'est pas l'option la plus simple, c'est pas ce que tu aurais choisi, mais tu vas garder le butin pour toi, pour le peuple. C'est quoi le butin de l'ennemi? C'est quoi la richesse de l'ennemi? Mais la richesse de l'ennemi, c'est plein de choses. Déjà, premièrement, chaque victoire te donne plus d'autorité pour ton prochain combat. On grandit en autorité. Vous savez, des fois je dis ça à mes enfants pour les embêter. Je leur dis, vous êtes des incapables selon la loi. C'est vrai. Aux yeux de la loi, un mineur est un incapable. C'est comme ça qu'on le définit. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire un acte. Je ne sais pas moi. C'est arrivé qu'on se chamaille et que ma fille dit, je prendrai l'appartement. Je dis, fais-le, mais aujourd'hui tu ne peux pas. Tu n'as pas l'autorité. Pourtant, elle pourra. Elle a ses potentiels, mais elle n'a pas l'autorité aujourd'hui. Et nous, on doit grandir en autorité. Et tu grandis en autorité au travers de tes victoires dans les combats. Quand tu as combattu un adversaire, tu es qualifié pour en abattre un plus grand. Quand tu as abattu un lion, un ours, Dieu va permettre que tu abattes un Goliath. Il y a eu un amen. Et quand tu as abattu un Goliath, Dieu va permettre qu'il y ait son cousin qui arrive. Parce que la Bible dit pour David qu'à la fin de sa vie, il eut encore des combats. Et il eut un Goliath qui venait de Gath, mais il était pire que le premier Goliath parce que celui-là, il était plus grand. Et en plus, il avait 6 doigts à la main droite et au pied droit. Ça va un Goliath, mais là le cousin il est pire. Mais en fait c'est pas un problème de combat. Les combats sont un problème quand on les perd. Non ? C'est pas un... Le problème est là. C'est que plus tu perds, plus tu veux plus combattre. Mais tu n'es pas destiné à perdre. Tu perds quand tu combats selon ton intelligence, selon les principes d'hier, selon selon ton arrogance. Mais quand tu combats selon Dieu, à la manière de Dieu, moi j'aime comment Josué va se reprendre parce qu'il voit la défaite, il court vers Dieu. En général, c'est comme ça qu'on fait. On y va sans lui demander, on a la défaite, après on dit « Seigneur !» En plus, j'aime la prière de Josué, il dit « Seigneur, mais pourquoi nous as-tu envoyé ici pour mourir ?» Un peu dramatique quand même. Et Dieu lui parle. Dieu lui parle. Tu vas retourner, mais vous allez prendre les choses au sérieux. Ce n'est pas une victoire facile. Ce sont peut-être 2000, mais vous allez y aller avec sérieux. Et la Bible dit qu'ils vont monter en grand nombre pour entrer dans ce combat et ils vont avoir la victoire. Mais je parlais du butin. Donc l'ennemi, le butin de l'ennemi, c'est l'autorité spirituelle. Dans le monde spirituel, tu peux être en Christ, mais avoir très peu d'autorité. Et Dieu veut qu'on ait de l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, il n'y a qu'une seule chose qui peut la mesurer, ce n'est pas le volume de la voix, ce n'est pas la manière dont tu es habillé, ni le nombre de tes années d'expérience. Ce qui mesure l'autorité spirituelle, c'est comment le monde des ténèbres te regarde, comment les anges te regardent, comment le monde spirituel te regarde. Je sais qui est Paul, je sais qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous, vous ? Tu peux avoir la bonne formule. Si tu n'as pas la bonne autorité, tu n'as rien. Donc il y a l'autorité. Il y a les moyens. La vérité, c'est qu'il y a une dimension de richesse, littéralement de richesse, de monnaie, d'argent. Lorsqu'ils ont eu la victoire, il y a une dimension d'argent qui a été donnée au peuple. Il y a des richesses que l'ennemi retient. Frères et sœurs, je sais que vous êtes déjà au ciel, mais voici une parole pour vous. Que Dieu, que tu aies un appel, que tu aies, en fait, quel que soit ce que Dieu va te demander, je dis bien quel que soit ce que Dieu va te demander, la première question que tu vas te demander, toi, c'est comment. Et souvent, le comment est arrêté par l'argent. Je vais vous le dire. Par exemple, tu marches dans la rue, tu as une compassion pour ta ville, pour ton quartier. Tu dis, Seigneur, je sens l'appel de compassion. Comment ? Ben, tu vas penser à quoi ? Ben, il faut de l'argent pour nourrir des gens, il faut de l'argent pour faire une structure. Ok, tu as un appel missionnaire. Là, tu te vois prêcher aux foules, au Zimbabwe, tu es en feu pour Jésus. Puis là, d'un coup, tu te dis, comment ? Ben, il faut payer un billet d'avion. Parce que si tu n'y vas pas, tu ne le verras pas. Et en fait, l'ennemi souvent avorte des promesses, ou en tout cas les freine, parce qu'il tient les finances. Donc, si tu ne rentres pas dans la dimension du combat, il y a des dimensions de finances que tu n'auras pas. Ça ouvre aussi la dimension des territoires. On parle ici d'établir une église dans un territoire nouveau. Est-ce que vous croyez que d'où on arrive avec une bannière, il y a écrit le nom de Jésus, et l'ennemi nous fait la courbette, il nous dit « Allez-y ». La Bible dit l'inverse. Vous savez que la Bible dit l'inverse de ça ? La Bible dit que l'ennemi a été précipité sur terre. Il est rempli de fureur, sachant qu'il lui reste peu de temps. Ah, mais c'est sûr que ça, c'est pas une théologie qui est populaire. C'est beaucoup plus populaire de dire j'ai l'étendard. Nous, je me rappelle quand on était jeunes, c'était quoi qu'on chantait là ? Ton étendard sur le pays. Là, c'était quoi ? Nous voulons voir Jésus élevé. On chantait ça, puis après on se prenait une bonne défaite et on rentrait à la... Parce que c'est pas ça qui est important. On peut faire des étendards. Il y a les territoires, la gouvernance sur les territoires. Littéralement, vous savez, je pensais à ça, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passait quand une ville comme ça tombait ? Et la Bible dit que il y a eu deux choses qui ont pris place. Lorsque la ville est tombée, les ennemis d'Israël ont eu peur. Tu sais quoi ? À chaque fois que tu abats un géant, les autres qui sont tapis dans l'ombre, ils ont peur de toi. Eh oui, mais nous, on croit que dans le monde spirituel, même on croit que Dieu n'a pas de sentiments. Est-ce que vous savez que vous pouvez impressionner Jésus ? Vous pouvez impressionner Jésus. Il y a des gens dans la parole de Dieu, il est dit que Jésus a été impressionné par leur foi. Il y a même des gens qui n'étaient pas chrétiens. La femme syrophénicienne, elle dit, si les chiens pourraient manger seulement les miettes qui tombent de la table. J'ai pas vu une aussi grande foi en Israël. Une femme qui n'est pas du peuple de Dieu a son histoire qui est écrite dans la Bible du peuple de Dieu. Pourquoi ? À cause de la foi qui a impressionné Dieu. Eh bien, je veux te dire que tu peux impressionner l'ennemi aussi. À cause de tes victoires. À cause de ton obéissance. À cause de... Vous savez, la Bible dit, l'homme, et je termine par ça, l'homme qui est rempli par l'esprit, il est semblable au vent. C'est écrit ça. Il est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas d'où il va. Et moi, je prie pour être cet homme-là, pour que nous soyons ce peuple rempli de l'esprit. C'est quoi être rempli de l'esprit ? C'est pas juste faire kora baba. Tu peux, ça c'est bien, mais si ta vie elle change pas, tu parles en langue, ça sert à rien. C'est bien, ouais, tu t'édifies un peu, mais il y a plus. L'homme conduit de l'esprit, oui, ok, t'es rempli du Saint-Esprit, mais ça veut dire que tu es l'homme du moment. Parce que c'est ça, être de l'esprit, c'est être du moment, de l'instant, vivre dans le présent de Dieu. Et quand tu es quelqu'un du moment, eh bien tu es semblable au vent. Il y a eu du vent ces derniers jours, hein. Je ne sais pas si vous avez eu du vent vous aussi. Il y a eu un vent, il y a eu du vent. Nous on a un volet qui est défectueux à la maison. Ma femme, comme j'ai été absent une journée, elle a tout essayé pour caler le volet. Mais le problème du vent, c'est que tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Un coup il est comme ça, un coup il est comme ça, un coup il tourbillonne, et le volet est dans tous les sens. Eh bien la Bible dit que quand on est dans le moment de Dieu, quand tu es dans l'esprit, pas dans ton intelligence, le diable quand vous réfléchissez, il sait déjà d'avance ce que vous allez faire. Ça, il a eu le temps, vous savez, il est là depuis longtemps. Mais quand tu es dans l'esprit, quand tu es inspiré par l'esprit, pour lui aussi tu es comme le vent. L'église, le leader, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le père de famille, qu'importe là où tu en es, le chrétien rempli de l'esprit qui comprend les principes de Dieu mais qui comprend que ce n'est pas simpliste. Les principes doivent être inspirés dans l'instant et qui part avec une directive de Dieu au combat, il est pour l'ennemi comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas d'où il va, mais tu sais que tu vas prendre une bonne raclée. Et c'est ça qui est important. Moi, je prie que lorsqu'on se rassemble, que l'ennemi n'est pas là, il s'assoit sur la chaise, il nous regarde, il dit « Oh, je sais ce qu'ils vont faire, on va chanter 5 chants. » Après, l'autre, il va parler 2 minutes. On répond à un appel, allez, on les attend cet après-midi à la maison. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas que le matin, j'arrive, puis là, je me mets à prier, puis là, l'ennemi me regarde, il dit « Oh, va durer 10 minutes, je sais déjà qu'il lit 2 versets. » Puis en plus, après, il prie 3, 2 coups en langue. » Je veux pas ça. Être rempli de l'esprit, comprendre comment ça fonctionne. Merci Seigneur pour les moments où tu vas nous dire ne bougez pas, je combats. Gloire à Dieu pour ces victoires. Gloire à Dieu pour les moments où Dieu va nous dire louez-moi et observez. Mais je veux dire gloire à Dieu aussi pour ces moments où il va nous dire c'est à vous d'y aller. Ta famille, c'est à toi de la prendre. La promesse que je t'ai donnée, c'est à toi d'aller la chercher. Le Haï est déjà un tas de ruines, mais il faut un peuple qui comprenne qu'il doit manifester ce que Dieu lui a dit. Alors moi, je ne sais pas quelles sont les paroles que vous avez reçues de Dieu. Je ne peux pas combattre pour vous. Je ne peux pas combattre, oui, on peut intercéder les uns pour les autres, mais par exemple, pour ma famille, si je vous demande la prière pour ma famille, bien, gloire à Dieu, mais le responsable de ma famille, c'est moi. Parce que c'est moi que Dieu a positionné là-bas. Donc oui, l'intercession m'aide, mais si moi, le responsable, je démissionne, l'intercession est vaine. Et donc, je ne sais pas moi, quel est votre haï, quelle est la promesse en suspens, qu'est-ce que le monde spirituel a dit sur ta famille, sur ta vie, sur tes enfants, sur tes finances, sur ton appel et ton ministère, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que tu peux être maintenu dans la promesse parce que Dieu garantit sa promesse, mais que si Dieu ouvre la porte, le pays qui t'attend derrière, c'est toi qui dois le prendre. C'est toi qui dois le manifester. tu dois être ce chrétien qui croit ce que Jésus a dit, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Je veux amener ce qui est au ciel sur la terre. Et parfois, ça ne prendra pas de minutes, désolé. Des fois, ça prendra des heures, des mois, des années. Des fois, ça demande... Vous savez quoi ? Je vais peut-être vous embêter un peu, et pas grave, vous me pardonnerez. Mais je crois qu'un chrétien qui ne va jamais au-delà de ce qui est convenable n'obtient jamais rien. Je n'ai une journée... C'est la base. J'écoutais un prédicateur africain, ma sœur. Il a dit un truc qui m'a tué quand il a dit ça, mais il disait tellement la vérité. Il disait, il disait à d'autres pasteurs africains, il dit, il ne faut pas qu'on soit comme en Europe, où on jeûne de 8h à 18h en mangeant des biscottes. Il disait ça, et moi je me réfléchissais. Et je parle très franchement, je vous parle avec vérité. Ça fait 20 ans que je suis dans le ministère, là, cette année, 2022. Je n'ai pas été à une seule pastorale, une seule, où un temps de jeûne était déclaré et où les pasteurs ne mangeaient pas. Et j'en ai fait un. Pas manger de midi à 14h, c'est juste décaler ton repas. Hein. Il y a des gars qui font la diète, ils sont plus vigoureux que des chrétiens qui jeûnent. Pourquoi l'intercession n'est plus là ? Parce que l'église est gentille, elle est devenue gentille, on est gentil. Mais, voyez, là, c'est l'exemple, ça. Vous savez, là, s'il a faim, lui, s'il se met à avoir faim, je peux vous dire qu'il va l'avoir son manger. Parce que tu peux lui expliquer qu'un jour est comme mille ans est comme un jour, que je sais pas, que l'Éternel fait toutes choses belles en son temps. Lui, il a faim. Il y a des victoires qui s'obtiennent par la violence spirituelle. Il y a des moments donnés où quand on te dit fais un mille, il faut en faire deux. C'est comme ça. Il y a un moment donné quand on te dit donne-moi ton blouson, tu donnes aussi ta tunique et tes chaussures. C'est ce que Jésus enseigne. Il y a des et attention, ne tombons pas dans les œuvres non plus. C'est pas plus j'en fais, plus j'obtiens non plus. Mais à un moment donné, sous l'inspiration de Dieu, tu dois être capable de te dire, ce soir je dors pas, je passe ma nuit à prier. Parce que je sais que Dieu m'attend. Parce que Dieu est comptable de tout ce que je fais. Il y a des moments donnés où tu sais que, frères et sœurs, ça change quoi de prier de 5h du matin à 6h ou de prier de 1h à 2h de l'après-midi? Ça change quoi? C'est 1h, non, on est d'accord? La différence, c'est qu'il y en a une qui t'a coûté de te réveiller et la deuxième, elle t'a rien coûté du tout. Il y a des dimensions du royaume de Dieu qui sont connectés au sacrifice. Et je sais qu'on n'aime pas, je suis désolé de vous le dire, mais je vous le dis quand même, parce que je vous aime. C'est Patrick Bruel qui a dit ça. Je sais qu'il y a trop de victoires que Dieu vous réserve et me réserve. Il y a trop de haï qui sont déjà désignés par Dieu comme des tas de ruines. Mais il faut qu'à un moment donné, tu ailles chercher la voix de Dieu. Seigneur, quelle est la stratégie? Qu'est-ce que je dois faire pour les miens? Pour mon appel? Comment ça se fait que... Et Dieu va commencer à te parler. Et ça va peut-être nécessiter de te mettre en mouvement, de te mettre en danger, de prendre des risques, d'aller au-delà de la norme. Mais si tu fais ce que Dieu te demande, Dieu va combattre avec toi, pas seulement pour toi. Et tu vas avoir des victoires. Tu vas voir le tas de ruines devenir réel. Est-ce que vous ne croyez pas qu'ils se sont réjouis de voir le tas de ruines être vraiment un tas de ruines? Parce que quand on te dit, Dieu a dit que cette ville sera un tas de ruines, que tu arrives, qu'elle est barricadée, fermée avec des soldats, tu dis, ben d'accord, ben... Mais quand tu le vois manifester, tu peux dire, Dieu a été là, Dieu n'a pas menti, et ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ok? J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux quelques minutes. Ce matin, c'est pas vraiment un message pour C'est pas, je ferai même pas d'appel après ce message. Des moments donnés, on fait des appels, mais là, je vous dis juste ce que j'avais à dire, que j'ai préparé, que j'ai vraiment été dans la prière pour entendre ce que Dieu voulait dire. Et ce que je vous livre, c'est ce qu'il me dit aussi, c'est ce qui me challenge aussi aujourd'hui dans ma vie. Mais je crois que plusieurs d'entre nous, peut-être, il faudrait recommencer en fait à ne pas se fier sur hier. Merci Seigneur pour hier, merci pour toutes mes victoires. Toutes mes victoires, je veux les célébrer sous le rapport de l'action de grâce. Je veux être reconnaissant pour ce que tu m'as donné, pour ne pas tomber dans l'ingratitude. Mais Dieu est pleinement conscient et nous sommes tous pleinement conscients que nous vivons aujourd'hui. Dieu sait que les êtres humains sont soumis au temps et nous avons peu de temps. Alors Seigneur, nous sommes devant toi et je prie que tu puisses nous enseigner à combattre selon toi. Il y a trop de choses qui sont déjà inscrites dans le monde spirituel, qui sont déjà déclarées, qui sont déjà fermées, ouvertes, brisées et qui attendent une femme, un homme qui va les voir, les comprendre, mais qui va surtout entendre ta voix pour savoir comment les obtenir et qui va partir au combat. Je prie pour tous les hommes et toutes les femmes qui sont rassemblés. Seigneur, que tu puisses nous apprendre à avoir une détermination spirituelle renouvelée. Que tu puisses nous apprendre à avoir une violence spirituelle selon ton cœur, selon toi. Je te dis merci pour les promesses, mais je te dis merci aussi pour l'Esprit de Dieu qui nous aide à conquérir. Vous recevrez, dit Jésus, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le mot témoin ici, en grec, c'est le mot martus. Martus a donné en français martyr. Et nous, parfois, on oublie, mais lorsque Jésus parle de témoin, il y a toute cette dimension de combat qui est connectée au fait d'être un témoin. Oui, être un témoin va faire de toi quelqu'un qui va faire face à beaucoup de violence. Mais Jésus a dit... Vous allez être des témoins, des martus, parce que je vais envoyer une puissance survenant sur vous. La puissance, c'est dunamis, ce qui a donné en français dynamite, mais c'est littéralement la définition la plus exacte, c'est faire des actes de puissance. Mais aussi, être un homme puissant qui fait des actes de puissance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur toi, il ne te donne pas juste d'être puissant, il te donne la mentalité du puissant aussi. Il te donne la mentalité de voir ce que Dieu veut faire et va faire. Il te donne la mentalité de rentrer en conquête et de combattre. Je prie, Seigneur, pour le peuple de Dieu rassemblé ici à Brignoles. Je prie pour une mesure supplémentaire du dunamis. Une mesure supplémentaire de la puissance de Dieu. Une mesure supplémentaire